BW. Droits et libertés.
Non, cette émission ne va pas parler toutes les semaines d'extrême droite, c'est promis. Mais il est des événements qui sont tout de même une bonne occasion pour revenir sur les pages sombres de l'histoire contemporaine. La semaine dernière, le Parlement espagnol a décidé d'autoriser l'exhumation des restes de Francisco Franco. Ce militaire a dirigé d'une main impitoyable l'Espagne de la fin des années 1930 à sa mort en 1975, soit l'une des dictatures les plus longues du XXe siècle dont les victimes réclament toujours justice. Mais on commence par un reportage à Bristol, en Angleterre, auprès de jeunes Somaliens en quête d'identité. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Le Royaume-Uni est le pays qui compte la plus grande communauté somalie d'Europe. La diaspora somalienne a augmenté à toute vitesse dans les années 1990, alors que ce pays de la Corne de l'Afrique est déchiré par la guerre. Et au sein du Royaume-Uni, Bristol est une destination privilégiée pour ces migrants qui tentent alors de reconstruire leur vie loin de la violence et de la misère. En 2017, un musée de la municipalité a décidé de consacrer une exposition à l'histoire de ces jeunes Somaliens, peu visibles bien que très présents dans la ville. Leurs récits ont été numérisés depuis et mis en ligne afin de maintenir le dialogue entre ces immigrés et le reste de la population dans l'espoir de comprendre comment se passe leur intégration.
Je m'appelle Mohamed Jama Hassan, je suis originaire de Somalie. Je suis né en Somalie, maintenant je vis au Royaume-Uni, à Bristol. J'ai 33 ans, j'ai 4 enfants, une fille et 3 fils. En général, je dis que je suis somalien parce que c'est en Somalie que j'ai grandi. C'est là que j'ai passé le plus clair de mon temps. Mais en ce moment, je suis citoyen britannique. J'ai obtenu un passeport en 2007. Et même si je me sens aussi britannique, il arrive que dans la conversation, des gens me demandent ce que je fais ici, si je ne compte pas rentrer chez moi. Il y en a même qui demandent si je suis vraiment britannique. Quand est-ce que les gens vont comprendre qu'on est vraiment britannique et qu'on ne va pas repartir nulle part?
Et c'est pour éviter ce genre de méprise et de désagrément que le musée de Bristol a eu l'idée de demander à des immigrés somaliens de conter leur histoire. Explication du directeur du musée, Finn White.
Les mots qui reviennent à chaque fois quand on demande aux gens de qualifier la communauté somalienne, c'est solidarité, entraide. Ce sentiment d'appartenance les aide, je pense, à se sentir faire partie d'un clan, d'un groupe, d'une grande famille.
Abdi Mohamed dirige un groupe de médias somalis qui a participé à l'élaboration de cette exposition.
Intégration, what does that mean to us?
L'intégration, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'on parle là de culture, d'assimilation, qui est parfois très difficile? Pour moi, la question est-ce que nous contribuons à la société, quelle que soit notre culture d'origine ou notre extraction sociale? Est-ce que nous essayons de contribuer à la réussite des communautés dans lesquelles nous vivons, de nos pays, de nos sociétés, à la fois d'un point de vue social et économique? C'est ça qui est important, à mon avis. C'est ça l'intégration pour moi.
Au Royaume-Uni, les Somaliens sont étiquetés comme appartenant à la catégorie BME, BME ou Noirs et minorités ethniques, une catégorisation de la population très anglo-saxonne et totalement étrangère aux traditions francophones.
Hello.
Sado Djirde dirige un réseau destiné aux Noirs du sud-ouest de l'Angleterre, un réseau qui se bat contre le racisme. Elle-même est somalie, mais elle a grandi au Kenya, puis au Royaume-Uni.
J'imagine bien que les gens qui voient des Noirs ou des BME les considèrent comme un groupe homogène, mais ce n'est pas le cas. Ils peuvent être Noirs, mais avoir une culture et une expérience très différentes selon l'endroit d'où ils viennent en Afrique. Ils n'ont pas la même religion. Quand on sait cela, c'est d'autant plus difficile de définir ce qu'est l'intégration. Et même les Somalis, s'ils partagent bien sûr certains problèmes, ils sont subdivisés en clans et n'ont pas tous les mêmes intérêts. Quand vous êtes musulman, on peut vous prendre pour un islamiste, ce qui est connoté de façon très négative. L'identité que l'on choisit soi-même d'afficher et celle que vous donnent les autres est donc un enjeu hautement politique et très complexe. Cela influence beaucoup le ressenti des gens.
Sado elle-même a commencé à porter le hijab après le vote sur le Brexit et l'accession de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Elle explique avoir ainsi voulu marquer son appartenance à la communauté musulmane. Pour Mohamed Ali, seul l'engagement citoyen, l'implication dans la vie de la cité peut permettre de combattre les préjugés. Ce jeune homme d'origine somalienne lui aussi se félicite par exemple qu'il y ait maintenant des personnes qui viennent aussi d'Afrique dans le monde politique. Le directeur du musée, Finn White, espère lui aussi que l'exposition aura permis aux habitants de se rapprocher.
It has been non-stop, really, in terms of...
Les non-somalis qui viennent nous remercier, ça n'arrêtait plus, on n'avait jamais vu ça. Vous savez, en Grande-Bretagne, les gens ne se parlent pas, c'est compliqué. Et après, quand quelqu'un se retrouvait à attendre le bus avec un Somalien, il lui posait plein de questions pour savoir des choses sur lui. Nous avons donné aux gens la possibilité d'entendre des histoires qui sont vraiment arrivées à des vrais gens.
Parias de la tierra, empieza América legión.
Petite pause musicale et pour se mettre dans l'ambiance de notre second sujet sur la dictature de Franco, je vous propose d'écouter des républicains espagnols antifascistes qui entonnent l'international dans le film de Ken Loach, Land and Freedom, sur la guerre d'Espagne.
Arriba esclavos, todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abrujémonos todos en la lucha final. El género humano está internacional. Abrujémonos todos en la lucha.
Les restes de Francisco Franco vont donc pouvoir être exhumés de son mausolée de la Vallée des Déchus, à une cinquantaine de kilomètres de Madrid. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez veut déplacer la tombe du dictateur, qui est toujours fleurie, pour que la République espagnole n'honore plus publiquement un personnage qui a combattu ses valeurs jusqu'à sa mort. D'autant que cette basilique, une croix de 150 mètres de haut, perchée sur une montagne, est devenue un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du franquisme. Aujourd'hui, notre démocratie est meilleure, a tweeté le Premier ministre Sanchez, après que les députés ont dit oui dans leur majorité à l'exhumation. Même son de cloche de la vice-présidente du gouvernement, Carmen Calvo, qui s'est félicitée de cette victoire sur l'extrême droite.
Il faut cesser cette anomalie. Nous sommes une démocratie qui a honoré un dictateur.
Mais les résultats du vote montrent que de nombreux élus espagnols sont toujours gênés aux entournures avec le travail de mémoire sur la guerre civile. La Chambre a approuvé le texte par 172 voix pour, 2 contre et 164 abstentions. Le Parti populaire de droite et les libéraux de Ciudadanos se sont abstenus. Ils accusent la gauche de vouloir rouvrir des blessures d'un passé toujours douloureux. On écoute le député libéral José Manuel Villegas.
Después de 40 años desenterrar el cadáver de Franco.
À mon avis, l'exhumation des restes de Franco 40 ans après sa mort n'est pas une priorité, ni une urgence pour la plupart des Espagnols. Nous pensons que M. Pedro Sánchez considère cela comme un dossier urgent pour jeter un écran de fumée qui camoufle les difficultés et les faiblesses de son gouvernement.
Le mausolée de la Vallée de los Caídos, la Vallée des Déchus, a été construit du vivant de Franco, en partie par des milliers de prisonniers de guerre républicains, c'est-à-dire pour beaucoup des communistes, des socialistes, des démocrates, ceux qui ont perdu la guerre civile de 1936 à 1939, contre les troupes de Franco, alors appuyées par l'Allemagne nazie. La basilique était censée, du point de vue de Franco, devenir un lieu de réconciliation nationale entre les deux camps de la guerre civile. Et le dictateur y a fait transporter les corps d'environ 27 000 combattants franquistes et de 10 000 opposants républicains dans une crypte, mais sans demander leur avis aux familles concernées. Le nombre de morts total de victimes de l'ère Franco varie énormément d'une source à l'autre, de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers, victimes de la répression, de la torture, de disparitions forcées. Vous connaissez sans doute le tableau de Picasso intitulé « Guernica » qui témoigne de la sauvagerie de la guerre d'Espagne et symbolise à lui seul les horreurs de la guerre en général. En 1977, soit deux ans après la mort de Franco, ses adeptes acceptent la transition démocratique en échange toutefois d'une amnistie dont les retombées silencieuses pèsent encore sur l'Espagne d'aujourd'hui. Nicolas Sánchez Albornoz est historien, lui-même rescapé du travail forcé. Il a dû aider à construire le monument de la Vallée des Déchus quand il avait une vingtaine d'années.
La décision d'exhumer à Franco me paraît que c'est un peu tardive.
Je pense que cette décision d'exhumer Franco arrive un peu tard. On aurait dû la prendre plus tôt, mais à mon avis, nous sommes à un point de non-retour. Il y a un débat autour de cette question, mais la pression sociale est forte en ce moment et le gouvernement qui a pris cette décision ne pouvait plus faire machine arrière. La Vallée des Déchus est une monstruosité qui date des années d'après-guerre, parée de tous les symboles de la victoire de Franco, des flèches, des boucliers, des aigles partout. On ne peut donc pas commuer cette basilique en un cimetière national qui serait politiquement neutre et respecterait la dignité de ceux qui reposent ici.
Et respectueux con todos los que están ahí.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Emma Wallis pour les sons de Bristol. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.